Alors, nous allons aborder notre sujet principal qui va porter sur le métier du développement logiciel libre avec nos deux invités. D'abord, Katia Aresti, ingénieure logicielle chez Red Hat. Bonjour, Katia.
Bonjour.
Et Emmanuel Raviard, développeur logiciel libre. Bonjour, Emmanuel. Alors, on va essayer d'expliquer un petit peu ce magnifique métier du développement logiciel, notamment libre, mais pas forcément que libre. Alors, comme je disais à mes deux invités avant la prise d'antenne, en venant en métro au studio, il y avait des pubs. Une des pubs dans le métro disait « Je veux faire du Java 35 heures par semaine ». Alors, c'est pour un site dont je me souviens plus exactement du nom, mais c'est un site qui sans doute fait des formations autour d'un langage de programmation qui s'appelle Java. Donc, comme quoi, finalement, ce métier de développeur et de développeuse doit attirer du monde. Donc, voilà, je trouvais ça marrant, surtout d'autant plus que Katia Aresti est une spécialiste Java, si je me souviens bien. Donc, voilà, on va essayer d'expliquer un petit peu ça. Ma première question va être relativement simple pour les deux personnes. C'est déjà de vous présenter votre parcours, d'où vous venez. Pour Emmanuel Ravard, ne pas faire tout son parcours depuis le début. Mais de voilà, d'où vous venez et où vous êtes aujourd'hui. Parce que voilà, donc peut-être Katia Aresti qui est développeur actuellement, ingénieur développeur chez Red Hat.
Moi, ça fait 14 ans presque, je travaille de manière professionnelle en tant que développeuse. J'ai fait mes études en Espagne, au Pays Basque espagnol, ingénieur en informatique, 5 ans. Et après, j'ai travaillé 3 ans à Madrid pour une grosse SS2I, société de service appelée Sopra Group, qui est française et qui, du coup, avec cette boîte, j'ai fait une mutation à Paris et je travaillais pour cette grosse société de service. Ensuite, une autre plus petite, tout, en faisant du prestataire pour des gros clients, Orange, Pôle emploi, Bouygues Télécom, etc. Et ensuite, j'étais freelance pendant une période et j'étais la plupart du temps développeuse Java ou plutôt axée sur Java, même si j'ai fait d'autres langages aussi. Et depuis 2 ans, je travaille chez Red Hat, qui est une boîte internationale qui développe des produits open source, libres en fait, dont le code source du produit est disponible et accessible pour tout le monde. Et ils monétisent comme ça. Et moi, je travaille pour une équipe en développant un produit depuis 2 ans. Et voilà, c'est ça, c'est ce que je fais pendant les dernières 15 ans, 14 ans.
D'accord. Emmanuel Raviard.
Donc voilà, j'ai fait assez vite, en 97, j'ai créé une première société de logiciels libres qui a la particularité d'être détenue par ses salariés avec égalité de salaire. En 2001, j'en ai créé une autre sur le même principe, entre-ouvert. Après, j'ai créé un réseau d'entreprises sur ce principe-là qui s'appelle Libre Entreprise et dont Frédéric, tu portes le t-shirt. Après ça, j'ai un peu travaillé pour la Caisse des dépôts, puis je suis rentré à Etalab en tant que développeur, où on a développé le nouveau DataGouv en 2013. Après, j'ai travaillé sur le logiciel libre OpenFisca et de fil en aiguille, je me suis retrouvé par un malentendu plutôt, directeur de campagne, puis assistant parlementaire, avant maintenant de retourner à mes amours sur le développement. Voilà.
Alors, merci pour cette présentation. Déjà, un point essentiel, c'est que c'est sur la durée. C'est que vous faites du développement logiciel libre depuis des années, alors que pour beaucoup de gens, c'est souvent une étape avant une autre activité. Donc ça, c'est déjà un point essentiel pour les personnes qui nous écoutent, c'est que le métier de développement logiciel libre peut être un métier sur la durée, qu'on peut y trouver du plaisir sur la durée. Deuxième question, comment vous définiriez en une phrase ou deux le développement logiciel? Si vous êtes dans une soirée et voilà, vous rencontrez des gens et au lieu de dire que vous faites de l'informatique, qui est très générique, si vous devez expliquer c'est quoi le développement logiciel en quelques mots. Est-ce que vous parleriez de langage de programmation et comment vous essayez de faire comprendre ce que c'est que le développement logiciel? Qui veut commencer?
Katia? Moi, je peux commencer. Moi, je dirais que déjà, c'est un métier qui est assez créatif et en même temps assez... il faut trouver des solutions aux problèmes. Et au quotidien, ce que je fais, c'est de passer du temps à écrire sur un éditeur, un langage que l'ordinateur va comprendre. Et grâce à ce que j'ai écrit, je vais construire à peu près tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui pour qu'on utilise un autre ordinateur, qu'on utilise dans notre appareil mobile, un peu partout en fait. Il y a des logiciels que quand on a besoin d'envoyer un texto, ça c'est quelque chose qui a été écrit par quelqu'un, et donc ça, moi, ce que je fais. Après, par rapport au côté libre, moi, ce que j'ai fait, c'est surtout construire des choses ou des applications, par exemple, le site de Pôle emploi, qui était construite à base de logiciels libres ou open source plutôt, qui dans le code source. Mais après, le code de Pôle emploi est fermé, je veux dire, n'importe lequel, il peut pas voir comment ça a été développé. Ça, c'est un truc. Mais après, aujourd'hui, je fais des codes. Du coup, ce que je fais, mon travail est complètement disponible. On peut voir tous les jours ce que je fais, en fait.
D'accord. Alors, on reviendra justement tout à l'heure dans la discussion sur cette évolution, notamment concernant d'un passage au logiciel libre. Peut-être que ça a changé en termes de développement, parce que forcément, on ne développe pas de la même façon quand on fait du logiciel propriétaire ou du logiciel libre. Emmanuel, toi, comment tu présenterais ça ?
Alors, je le présente pas souvent, mais si je le présenterais là maintenant...
Tu vas à très peu de soirées, c'est ça ?
Non, je vais à très peu de soirées parce que justement, je suis développeur et donc j'ai pas le temps d'aller dans les soirées.
Donc toi, les 35 heures, c'est plus que...
Voilà, les 35 heures... bon, c'est un... Et non, en fait, c'est être développeur, c'est... Alors, au début, c'était écrire des mots dans un langage simplifié et avec ces mots dans un langage simplifié, progressivement construire des phrases et tout. Et en fait, chaque fois, moi, j'assimile plutôt ces phrases à des briques, comme quand on construit une maison, sauf que chacune de ces briques a une forme différente.
Et comme on construit un Lego aussi.
Construire un Lego.
Je suis d'accord avec ça.
Mais simplement, chaque brique a une forme différente et donc elle a un impact sur le reste de, elle peut avoir un impact sur le reste de la maison. Donc c'est en ça que c'est un peu bizarre le logiciel, parce que c'est quelque chose où chaque acte peut avoir de l'importance plus tard. Voilà. Donc je sais pas si c'est un. Voilà. Ah si, ce que je voulais dire de plus, c'est que bon, jusqu'à présent, c'était souvent écrire des mots et maintenant c'est beaucoup réutiliser des phrases écrites par d'autres ou des blocs montés par d'autres. Voilà.
Ça, c'est une remarque effectivement intéressante, c'est que quand vous avez commencé le développement, il y avait effectivement peut-être moins de briques disponible.
Il n'y a rien qui existait. Maintenant, tout existe.
Voilà. Et quand on parle donc de langage de programmation, quand je faisais l'introduction tout à l'heure sur Java, alors on va pas être du tout technique être aujourd'hui. Hein. J'ai cité Java parce que j'ai vu la pub et que Katia est une spécialiste Java. Un langage de programmation, en gros, c'est une grammaire, un vocabulaire qui permet d'écrire effectivement donc du code informatique qui va permettre, avec à partir de briques, de gérer une maison, de gérer un téléphone, de gérer un site pour emploi. Et finalement, c'est accessible à toute personne, en fait. C'est-à-dire que c'est un apprentissage qui demande aucune, on va dire, caractéristique particulière. Ou plutôt, comment vous êtes venu à l'informatique, d'ailleurs, justement ?
Moi, j'ai Katia. Un parcours assez classique, parce que j'ai fait une école d'ingénieur et donc en informatique. Mais ce n'est pas le seul parcours possible. Là, aujourd'hui, il existe énormément de formations dans lesquelles des personnes qui, par exemple, travaillent, mais qui envisagent un changement, qui peuvent pendant 3-4 mois se former au lieu de faire une école d'ingé de 5 ans. Il y a énormément de ressources online. Et du coup, en fait, comment commencer, comment on peut commencer à coder, c'est vraiment en allant à un site, chercher le langage par exemple Java ou JavaScript. Ou, d'ailleurs, JavaScript, c'est pas mal parce que c'est quelque chose qu'on voit visuellement dans le navigateur. Du coup, ça donne tout de suite un retour sur ce qu'on code. Et puis après, commencer en fait avec un petit truc, à apprendre les bases de si j'écris ça, ce que ça donne, etc. Donc, mais moi, j'ai fait un parcours assez classique.
D'accord.
Donc, assez, voilà.
Emmanuel ?
Alors moi, je me suis lancé dans l'informatique parce que j'étais en quatrième, donc, mais quand je voulais faire de l'intelligence artificielle. Je voulais créer un ordinateur qui se comporte comme un humain. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je me suis intéressé à l'informatique. Que dire de plus ? Non, rien.
Donc en fait, toi, tu t'es intéressé à l'informatique finalement relativement jeune.
Jeune, oui. C'était
jeune.
Au détriment de mes études d'ailleurs, ce qui m'a fait d'ailleurs rater quelques études. Voilà. Et après, je suis retombé. J'ai fait un IUT d'informatique. En fait, j'avais tout appris avant, mais l'IUT d'informatique m'a permis de stabiliser un peu mes connaissances théoriques.
D'accord.
Oui, d'ailleurs, pardon, du coup, en fait, peut-être que je n'ai pas vraiment répondu à la question, parce que pourquoi j'ai fait une école d'informatique, d'ingénierie, c'est parce que j'avais appris un peu à coder dans un cours quand j'étais au lycée.
Ah,
on
d'accord.
avait appris un tout petit peu à coder et j'étais une ado qui savait pas quoi faire. Je savais que j'étais pas de lettres, que je voulais pas faire un truc médecine ou machin parce que je supporte pas le sang, ni les animaux, ni rien. Et du coup, j'ai découvert ça et je suis allée faire des études d'ingénieur. Et c'est là que, en fait, ça m'a confirmé que j'adorais coder, en fait.
D'accord.
C'est ça qui est... Pardon.
Je te laisse, Emmanuel, et après on va venir sur le mot adorer coder, ce qui m'intéresse.
Oui,
Emmanuel,
à propos des études, ce qui m'a souvent marqué, c'est que bon, les professeurs étaient souvent moins compétents que les élèves, au moins à mon époque. Et c'est encore quelque chose qu'on retrouve dans les apprentissages d'informatique maintenant. C'est-à-dire qu'il y a de bonnes écoles d'informatique comme Epitech ou 42, où ce sont les élèves eux-mêmes qui apprennent aux autres élèves, qui se forment eux-mêmes et qui, enfin voilà, il faut, l'informatique est une technique où on peut apprendre par soi-même en galérant beaucoup et sans forcément beaucoup. En passant beaucoup d'heures et sans forcément avoir beaucoup de personnes pour t'enseigner.
Alors, outre les écoles, il y a aussi certaines universités. Je vais citer l'université Paris 8 où j'ai appris l'informatique justement plutôt la nuit que le jour et où il y a une forte entraide. Mais je vais revenir sur le terme adorer cette activité de code. Quelle satisfaction, quel plaisir trouvez-vous à faire du développement logiciel et à continuer à en faire aujourd'hui, alors que, comme je l'ai dit en introduction, il y a beaucoup de gens pour qui le développement logiciel est une étape dans une carrière d'informatique avant de devenir chef de projet ou autre. Donc voilà, quels sont vos plaisirs que vous retrouvez ?
Alors, le grand avantage d'un ordinateur, c'est que quand on sait programmer, même un peu, l'ordinateur vous obéit. Donc ça, c'est par rapport aux êtres humains, c'est un bonheur incommensurable. Voilà, donc c'est une des vraies satisfactions qu'on a. C'est qu'on a l'impression d'avoir un outil surpuissant entre les mains et qu'on arrive à lui faire faire des choses. Voilà, ça c'est un des vrais plaisirs que j'ai toujours avec l'ordinateur, c'est-à-dire arriver à lui faire faire des choses que j'ai envie qu'il fasse.
D'accord.
Donc, voilà, c'est pour moi donc un outil qui me permet de mettre en pratique certaines choses que j'ai envie de faire.
Katia ?
C'est vraiment le côté qu'on est en train de construire des choses potentiellement utiles, mais peut-être pas, mais au moins ça peut être fun en fait. Une appli mobile qui juste fait des photos rigolotes, c'est déjà quelque chose qui est marrant. Donc le fait de pouvoir vraiment faire des choses qui aident au quotidien, construit par moi-même. Moi j'ai joué beaucoup au Lego quand j'étais petite et peut-être ça a structuré comme ça mon cerveau aussi pour aimer ça. Et c'est le côté, les mélanges scientifiques à peu près, un peu avec le côté créatif et la satisfaction de faire avancer les choses et de quand ça marche voilà, et que tu passes beaucoup de temps et c'était très riche et puis que c'est pas un métier contrairement à ce qu'on pense assez individuel, mais c'est très collectif parce qu'on doit souvent travailler avec les autres, apprendre à coder avec les autres et justement souvent les plus gros problèmes viennent plus des gens que de la machine, en fait. C'est vraiment le fait de travailler avec les gens. Mais donc, c'est un métier assez social. Et il y a énormément de soirées, des choses justement pour qu'on apprenne tous ensemble et tout ça. Donc, c'est tout l'ensemble qui me plaît, en fait.
D'accord. Alors, par rapport à ça, dans la préparation de l'émission, un mot est revenu à un moment, c'est le mot d'artisan. Alors, je crois que, Emmanuel Ravert, tu te revendiques comme artisan logiciel libre. Pourquoi ce terme artisan ?
Alors l'expression ne vient pas de moi, mais elle vient surtout de Rodolphe Quédeville, qui est un ancien collègue commun. Voilà, donc je me retrouve totalement dans ce mot artisan, parce qu'en fait, on a longtemps pensé que l'industrie du logiciel était une industrie, et que, que si, par exemple, on prenait une armée de singes et qu'on les mettait à coder un langage, à un programme, ils arriveraient à coder un langage. Ça, c'était un peu la théorie du langage Java. Enfin, c'est pour lancer un petit troll à ma collègue de gauche. Alors, non, mais dans les années 90, il y avait un peu ce fond-là. Bien sûr, on en est revenu. Et en fait, non, comme je le disais, un logiciel, c'est un ensemble de briques avec toutes des formes différentes. Et je considère qu'on n'est jamais un bon informaticien. On peut juste essayer d'être un peu moins mauvais avec le temps et de s'améliorer. Parce que il n'y a pas de vraie standardisation. Enfin, on peut faire des choses, bien sûr, on essaie de réutiliser des choses existantes, des choses comme ça. Mais chaque petite décision peut avoir un impact énorme sur la suite du logiciel un ou deux ans après. Donc, c'est vraiment, on est dans un truc où il faut
l'expérience,
aimer son métier, accepter de revenir en arrière, et donc c'est vraiment pour moi comme faire un beau meuble, c'est de l'artisanat, voilà.
Et est-ce que c'est le parallèle aussi, tu parles d'industrie, si on pense à un avion, pour faire un avion, il faut des centaines, un individu seul, une personne seule ne peut pas construire un avion, alors qu'une personne seule peut construire quelque part un logiciel. Mais d'un autre côté, en fait, artisanat ne veut pas dire forcément isolement, parce que dans le cadre du logiciel, on travaille avec des briques, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui ont été écrites par d'autres, et on peut aussi travailler, alors, notamment dans le cadre du logiciel libre, avec des autres développeurs et développeuses qui travaillent sur les mêmes codes ou sur des codes dont on dépend.
Oui, c'est ce qui a beaucoup changé dans le métier d'informaticien ces dernières années, c'est que dans les années 80-90, quand tu avais un problème, tu cherchais pendant des mois, tu étais tout seul, mais vraiment tout seul. Donc, il n'y avait pas vraiment de relations sociales. Enfin, c'était, et là, maintenant, avec l'essor d'Internet et autre chose, les problèmes pour les résoudre, tu mets à peu près 30 secondes. On n'est plus sur des recherches d'un mois ou deux mois, comme ça m'arrivait à l'époque, rien que pour résoudre un petit problème. Maintenant, tu poses la question sur un moteur de recherche et on te répond sans doute avec une réponse qui te fait comprendre ta question. Et c'est vrai que avec tous les maintenant comme on réutilise de plus en plus donc de composants existants, comme on est dans des logiciels qui sont de plus en plus des assemblages et autre chose, et ben on est en fait le métier de logiciel de développeur de logiciel est devenu extrêmement social, comme le disait ma voisine.
Et sur cette notion donc Katia d'artisanat ou d'industrie, parce que Red Hat c'est pas de l'artisanat quelque part, on va dire que c'est l'un des industriels du logiciel entre guillemets. Est-ce que toi tu te reconnais dans cette définition, en tout cas dans ce mot d'artisanat, ou est-ce que tu te reconnais pas?
Oui et non. En fait, je me reconnais dans le sens où c'est un métier qui s'apprend, qui s'améliore à la force de faire et de faire, et qu'on devienne meilleur comme ça, et qu'il y a toujours des remises en question, des nouvelles techniques à prendre. Donc c'est quelque chose que vraiment c'est perfection avec le temps. Mais après, je considère que c'est une industrie aussi, d'ailleurs très grande et qui bouge beaucoup d'argent justement. Et donc voilà, moi je travaille pour une grosse société qui leur Linux Enterprise, c'est un de leurs plus gros succès. Et après moi je travaille dans une autre partie qui en fait plutôt des briques de logiciels Java, justement pour que d'autres développeurs l'utilisent pour créer d'autres solutions. Et tout ça c'est open source, donc c'est pas forcément logiciel libre, comme il y a une différence parfois qui est faite entre que le code soit disponible et ouvert, qu'on puisse voir, mais que ce soit un logiciel libre. Mais bon, ça c'est peut-être un débat plus philosophique, plus long à pas m'en tenir maintenant. Mais en fait, ce qui fait Red Hat, c'est vraiment monétiser avec la formation, faire du consulting, aider les clients qui utilisent ce produit à s'en sortir, en fait. Mais donc c'est une industrie aussi.
Ouais. Alors sur la différence entre open source et logiciel libre, il y a à la fois une différence philosophique, mais souvent les logiciels derrière sont les mêmes, c'est une question de licence. Alors il y a des licences qui garantissent les fameuses quatre libertés du logiciel libre qu'on peut redire, hein. C'est la liberté d'utilisation, d'étudier le fonctionnement, de modifier le code soit pour corriger des bugs, soit rajouter des fonctionnalités, et la possibilité de redistribuer soit la version originale du logiciel, soit la version modifiée. Toi dans ton parcours, Katia, tu as expliqué que tu n'as pas fait toujours du logiciel libre. Alors justement, est-ce que dans ton métier de développeuse logicielle, qu'est-ce qui a changé du fait que tu es devenue une développeuse qui travaille sur des outils libres? Alors je suppose qu'est-ce qui a changé en bien, mais peut-être qu'il y a des choses qui ont changé en mal, je n'en sais rien, mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Et puis quelle a été l'évolution de ton métier finalement avec cette nouvelle base de travail qui est une base libre?
Déjà, la première chose est que souvent dans les produits qui sont open source, dont le code source est ouvert, c'est développé par des gens un peu partout dans le monde. Donc c'est distribué par défaut en fait. Ça a changé que mon équipe, les gros changements premiers que j'ai eu, c'est que mon équipe n'est pas en France, on est tous partout. Fait que toutes les gens avec qui je travaille au quotidien sont partout dans le monde. Mais par contre, on travaille en équipe, on prend des décisions ensemble, on est tout le temps connecté, mais pas forcément à parler, mais en écrit, en chat et tout ça. Donc ça, c'est un gros changement que ça a fait. Après, ça m'a aussi... j'adore le fait que tout le monde puisse voir et contribuer à ce que j'ai fait et porter un jugement qui soit ouvert, qui soit... voilà, que tout le monde puisse voir ce que je fais vraiment.
Ça, justement, c'est une question. Ça ne t'a jamais bloqué, potentiellement, de te dire, justement, qu'en publiant un logiciel libre, donc de façon totalement publique, n'importe quelle personne pourrait regarder ton code, éventuellement le commenter, éventuellement négativement. Est-ce que ça n'a jamais été un blocage pour toi?
Si, il y a raison à commenter. En fait, moi, je pense que c'est l'expérience qui m'a appris que le code, c'est pas moi. Les codes, c'est mon code. C'est les codes que j'ai fait, mais c'est pas moi. Si les codes, c'est de la merde, c'est de la merde, quoi. Mais c'est bon. Et donc, voilà. Il faut vraiment faire. C'est pas ma personne qui est de la merde. Donc, en partant de là, les gens, ils peuvent porter les jugements qu'ils veulent. Et puis, s'ils ont raison, tant mieux, parce que je veux apprendre. Et s'ils n'ont pas raison, tant pis pour eux. Hein. C'est à eux d'apprendre, peut-être.
Oui.
Voilà.
Et il me semble que dans le développement, enfin dans le GLB en général, l'un des avantages, c'est qu'il n'y a pas de barrière juridique ni technique à la contribution et à l'amélioration du code. C'est-à-dire qu'en fait, on dépend uniquement de nos propres capacités. C'est-à-dire que si on a envie de faire évoluer un logiciel et qu'on va y passer le temps, on peut y arriver. Est-ce que c'est ça, Emmanuel ?
Oui, oui, c'est exactement ça. C'est le plaisir qu'on a en faisant du libre, c'est qu'à un moment, quand on a un problème en utilisant une bibliothèque ou un logiciel fait par quelqu'un d'autre, on peut se pencher dans le problème que pose cet outil, regarder son code source, essayer de voir pourquoi et de le corriger. Ça, c'est ça qu'apporte. C'est vraiment ça l'apport majeur du logiciel libre. C'est cette possibilité de, quand on a un problème, de pas se dire si on a une boîte noire, hop, on peut plonger les mains dedans et tenter de résoudre le problème et donc contribuer à l'amélioration du logiciel qu'on utilise nous-mêmes. Voilà. Donc ça, c'est un des aspects très agréables du libre. Moi, je voulais juste peut-être ajouter comment moi je suis venu au logiciel libre. Parce que, et en fait, c'est ce qu'avant, je travaillais pour des logiciels Apple. Et notamment, je travaillais sur le Newton d'Apple. Le Newton, c'était une tablette que faisait Apple dans les années 90. Et quand Apple a à nouveau recruté Steve Jobs et l'a fait venir aux affaires, Steve Jobs a arrêté le Newton. Et donc moi qui avais commencé à faire une activité autour du Newton, je me suis retrouvé d'un coup sans aucun débouché, aucun marché, aucun client. Et donc du jour au lendemain, j'ai dû trouver une autre activité. Je me suis dit plus jamais de ma vie, je dépendrai d'une décision faite par d'autres. Voilà. Et c'est aussi pour ça que donc à ce moment-là, j'avais le choix entre Java qui n'était pas encore libre et les logiciels autour du noyau Linux et le monde, la communauté GNU. Voilà. Et donc à ce moment-là, je suis allé vers Debian, GNU Linux et tous les outils libres, mais c'était vrai, et en me jurant que plus jamais je ne ferai de propriétaire. Voilà. C'est à cause d'Apple et de Steve Jobs.
Est-ce que tu as tenu ?
Alors non, de temps en temps j'ai eu des très petites digressions en raison de contrats avec des boîtes, toutes choses comme ça, mais à chaque fois j'ai regretté. Donc maintenant, oui, maintenant je tiens. Et je ne fais plus qu'autre chose que du libre.
D'accord. Et la capacité de réutiliser son propre travail, je suppose qu'elle doit faire partie d'un plaisir. Parce que quand on fait du... Tout à l'heure, tu parlais que tu avais travaillé, Katia, dans une société de services importante. Normalement, quand on développe du code pour un client, normalement, on ne peut pas le réutiliser pour un autre client dans le monde traditionnel. Alors que dans le monde du logiciel libre, au contraire, on est plutôt encouragé à le faire. Donc je suppose que ça, c'est quand même une force incroyable de se dire qu'on a accès au travail passé qu'on a fait, qu'on peut le réutiliser, voire l'améliorer.
Oui, après ça change, ça bouge tellement vite là. Les machines, les outils qu'on utilise pour coder et tout ça, ça a tellement changé que franchement, parfois t'es bien content de plus utiliser ce que t'as fait il y a 5 ans, parce que c'est vraiment il y a un nouveau truc qui est mieux en fait. Donc ça bouge tellement vite que voilà. Mais oui, mais après c'est.
Alors justement, ça bouge tellement vite. Est-ce que c'est j'ai l'impression que toi tu le vis de façon très 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 joyeuse. Ça doit faire partie justement de ce plaisir. Mais est-ce que ça peut pas être un peu stressant quelque part de se dire que dans ce métier-là, on doit se remettre tout le temps remettre son ouvrage sur le travail parce que ça évolue effectivement comme tu dis très 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 rapidement.
En fait, les trucs et que les fondamentaux restent les mêmes. Hein. Donc, dès le moment que tu as les fondamentaux et que justement, un de nos forces, et c'est pour ça que, en revenant au truc d'artisanat et l'expérience fait que tu apprends à apprendre. Donc, tu apprends à apprendre, tu vas plus vite, les fondamentaux restent les mêmes, et c'est juste qu'il faut après passer des heures. Donc, on est quand même habitué à faire ça, et avec les années. Après, évidemment, il faut aussi savoir lever les pieds et pas se pencher sur les nouveautés. Les sirènes de marketing, des nouvelles choses et juste vouloir tout casser parce que c'est mieux un nouveau logiciel ou je sais pas quoi. En fait, parfois, c'est pas mieux forcément. Voilà.
Finalement, c'est un peu comme les langues naturelles. C'est-à-dire qu'apprendre une première langue étrangère, c'est le plus compliqué. Mais ensuite, apprendre une deuxième langue étrangère,
oui,
il y a
carrément.
Les codes et que finalement, on s'y remet. Alors, sur le web chat de la radio dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est sur causecommune.fm, on a une auditrice qui nous signale, donc c'est Marie-Odile qui s'occupe des transcriptions à l'April, qui nous signale, qui suggère à M. Emmanuel Raviard qu'il devrait parler avec le ministre de l'Éducation nationale sur le terme de la confiance dans ce qu'on utilise, car ton exemple avec Apple et les Newton donc était clair et parlant. Je précise que c'est en lien évidemment avec le projet de loi École pour la confiance dont je parlerai en fin d'émission. Ah, j'ai une petite question, c'est une remarque d'Ardemar Edil qui rajoute « Remettre son ouvrage sur le métier n'empêche pas de vieillir ». Comment on vieillit dans le monde, et on fera une pause musicale après, comment on vieillit dans le monde du développement logiciel ? Effectivement, tiens, c'est une question intéressante ça. Est-ce que ça permet de garder le cerveau encore toujours actif? Est-ce qu'on n'a pas peur d'être dépassé par la jeunesse qui... Alors toi, Emmanuel, tu as commencé en quatrième, mais aujourd'hui, avec tous les codes disponibles, avec toutes les écoles, et quand on voit les initiatives autour de l'apprentissage du code, on peut se dire que les petits jeunes qui débarquent, ils vont vous bouffer, quoi.
Alors,
Emmanuel, et puis Katia, après.
Il y a une époque, on disait, il y a quelques deux décennies, on disait un développeur était fini avant 40 ans. Et donc moi je vais t'embêter parce que j'allais bientôt atteindre la quarantaine et on me disait que finalement j'aurais plus de métier, voilà. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais créé mes propres boîtes de société de logiciels, c'était pour pouvoir être mon propre salarié. Non mais donc en fait non, alors l'avantage qu'on a en codant, enfin en étant un peu un vieux, un vétéran, c'est que ben on a mis la main dans le cambouis, dans beaucoup de problèmes, dans beaucoup de choses, donc on a toute une expérience. Alors, c'est vrai que les langages évoluent, enfin tout évolue, l'environnement évolue, s'enrichit, et les connaissances s'accumulent, donc on a de plus en plus d'outils qui font de plus en plus de choses. Mais le fait d'avoir assisté quasiment, enfin moi au début de la micro-informatique jusqu'à Internet maintenant, enfin jusqu'au téléphone mobile et tout, ben, ça permet d'avoir des bases qui aident vraiment à bien comprendre les choses. Ça veut pas dire les jeunes ont des atouts et nous en plus anciens on a aussi des atouts et c'est très complémentaire. Donc non, je me sens pas du tout dépassé.
D'accord, Katia.
Je suis d'accord avec lui en fait. C'est comme dire t'as pas peur de perdre ton métier de médecin alors que t'es un chirurgien que ça fait des années que tu fais des choses parce qu'il y a des petits jeunes qui viennent à l'hôpital. Bah non, justement, on t'a mieux qu'ils viennent et que on va travailler ensemble et on va essayer de faire des choses mieux. Donc non.
D'accord.
Moi, j'ai pas peur.
Alors, on va faire une petite pause musicale. Nous allons écouter Blowout par Frankie Barbano et on se retrouve juste après.
Cause commune. Say goodbye. I can push your hands and make you understand. Life is like a tree, climb it with your teeth. Rumbling on the floor, looking at my door, I was blue. In your eyes,
Nous venons d'écouter Blow Out par Frankie Barbano, donc c'est sous licence Creative Commons partage à l'identique. Les références sont sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous poursuivons le sujet du développement logiciel libre avec Katia Aresti, ingénieure logicielle chez Red Hat, et Emmanuel Raviard, développeur logiciel libre. Et nous allons poursuivre avec un changement qui n'est pas récent, mais qui a sans doute radicalement changé la façon de travailler sur le développement logiciel libre. C'est notamment l'arrivée des forges logicielles il y a quelques années. Emmanuel, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'une forge logicielle déjà ?
Alors, une forge logicielle, c'est un endroit où on dépose ce qu'on écrit. Donc, le code source qu'on écrit, au fur et à mesure qu'on l'écrit, par exemple, tous les jours, on va déposer la nouvelle version sur une forge et la rendre généralement publique pour tout le monde, afin que tout le monde puisse voir ce qu'on a déjà écrit et éventuellement y contribuer, le critiquer, signaler des problèmes. Voilà. Donc les forges c'est un outil qui sont vraiment démocratisés depuis 10 ans, une 15 ans, et qui ont vraiment changé la manière de développer, parce que on en parlait en off tout à l'heure, mais c'est une des raisons qui font que maintenant les développeurs sont incités à se mettre à mettre leur code source en ouvert. C'est parce que justement en mettant leur code source sur les forges, on voit que tel développeur, telle personne a contribué tel jour à tel projet, des choses comme ça. Donc dans son sorte de CV numérique, on voit que ce développeur a beaucoup contribué à beaucoup de logiciels. Donc avec les forges aussi, les développeurs sont incités à rendre public ce qu'ils font. Voilà. C'est pas une description des forges, mais c'est un impact des forges.
Tout à fait. Et pour toi, Katia, qui travaille aujourd'hui chez Red Hat, qui utilise des forges, mais qui a aussi travaillé avant, est-ce que ces forges ont changé quelque chose dans ta manière de travailler ?
Ils sont changés, oui, parce que c'est beaucoup plus simple, en fait, à contribuer. Moi, quand j'ai commencé j'ai fini mes études en 2005, mes études, c'est mon projet de fin d'études, c'est porté sur un serveur, un produit open source, mais c'était beaucoup plus compliqué, en fait, à prendre le code, à pouvoir contribuer dessus, c'était un peu plus compliqué, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu une question de s'inscrire avec son email. Et puis après, c'est juste un deux clics, tu peux récupérer le code d'un projet et faire des changements et les pousser, le repartager à nouveau. Les outils sont très 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 avancés justement pour tout ce qui est dire « Ah, je voudrais bien que cette personne-là regarde le code que j'ai fait ». Donc ça devient super collaboratif, ça devient vraiment très social. Tu peux suivre des gens, voir les activités, sur quel projet open source aime plus que d'autres, en fait, liker un peu. Il y a toute cette notion sociale qui est agrégée. Donc, c'est merveilleux, je trouve, en fait, justement. Moi, je suis le côté optimiste d'ici, je pense, non,
non, non.
Mais je trouve que c'est merveilleux de pouvoir travailler comme ça. Donc, oui, ça a été un gros impact.
Et toutes les forges logicielles offrent les mêmes fonctionnalités, ou est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui sont vraiment essentielles? Enfin, c'est deux questions différentes, d'ailleurs.
Non, elles sont toutes équivalentes.
Toutes équivalentes?
Oui. Enfin, moi, personnellement, j'utilise surtout GitLab, qui est une forge logicielle libre, développée en logiciel libre, parce qu'il y a une forge logicielle libre très célèbre qui n'est pas libre elle-même.
GitHub.
Voilà.
Oui.
Et elles sont maintenant, GitHub ou GitLab sont fonctionnellement équivalentes. Voilà. Avec tout à fait un problème, c'est que sur GitLab, tout le monde peut installer sa propre forge, donc ça, c'est un avantage. Donc une entreprise peut installer sa propre forge logicielle et mettre ses logiciels. L'inconvénient, c'est que le travail des développeurs ne sera pas mis en valeur sur une plateforme centralisée. Et donc il y a une tentation pour les développeurs de tout mettre sur la plateforme propriétaire GitHub, parce que du coup, on verra bien que toutes leurs contributions sont visibles. Voilà.
Ce qui permet d'avoir un CV quelque part.
Voilà, parce que les entreprises recrutent beaucoup maintenant en regardant ce qui se passe sur les forges logicielles.
C'est sérieux, ça?
Ah oui, non, c'est sérieux. Oui. C'est les recruteurs, ils utilisent ça. Ils utilisent aussi un site qui s'appelle Stack Overflow de questions et réponses.
Ah oui.
Voilà, mais on regarde maintenant assez systématiquement ce que tu as fait sur Git.
Et LinkedIn, énormément.
Ouais. Bah, LinkedIn, c'est tout le monde.
Oui, LinkedIn, c'est tout le monde, mais je pense que oui, aujourd'hui... En fait, aujourd'hui, quand tu es développeur,
tu fais
des marchés partout, en fait.
Ouais, la première chose que tu regardes, c'est ce que tu as fait comme code source. Hein.
Ouais. Oui, bien sûr.
Voilà. Et d'ailleurs, j'ai une copine qui, il y a deux jours, me faisait la remarque, c'est que maintenant, elle travaillait dans une boîte et elle a quitté la boîte. Bah, le fait que son code source n'était pas public et n'a pas été, hein, ça lui pose problème parce que du coup, elle a un grand trou dans son CV. On voit pas ce qu'elle a fait pendant quelques années en termes de commit ou d'amélioration du code. Voilà. D'accord. Donc, du coup, c'est un vrai avantage de faire du logiciel libre, y compris pour son CV.
Et donc, finalement, si je comprends bien, pour une personne qui débute aujourd'hui en faisant du développement logiciel libre, même dans une phase d'apprentissage, finalement, le conseil que vous lui donnez à cette personne, bah, c'est de publier tout de suite son code sur une forge logicielle. Bon, si possible, évidemment, une forge logicielle libre, mais peut-être publier sur deux, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est de publier tout de suite, même si finalement, on est en phase d'apprentissage et que le code, il peut être, comme tu disais tout à l'heure, je ne sais plus quel terme tu as employé, pas forcément terrible, mais vraiment, c'est de publier immédiatement, tout de suite, en fait.
Oui, c'est faut prendre l'habitude. Dès qu'on écrit une ligne de code, il faut tout de suite en faire un petit projet et le mettre sur une forge logicielle. Et ça n'est que vertueux. Et il y a quelque chose qui est très important sur le logiciel libre. Une des grandes qualités du logiciel libre, c'est la qualité de son code. Un code écrit qui a été relu, qui est potentiellement relu par d'autres, et de toute façon mieux écrit qu'un code dont on sait qu'il ne sera pas relu. Et donc ça, je l'ai vu moi dans ma vie, quand je faisais du logiciel propriétaire, je faisais du logiciel de moins bonne qualité que quand je faisais du logiciel libre.
C'est un peu la loi de Linus, c'est ça, du nom de Linus Torvalds, le créateur du noyau Linux, qui disait plus il y a de Dieu qui regarde un code, plus on peut voir les bugs et les corriger, si je me souviens bien, c'était quelque chose comme ça.
Et puis il y a aussi une incitation à... On met quand même un peu son ego quand on publie quelque chose, c'est un peu nous l'auteur, donc on y met un peu, c'est un peu de nous-mêmes quand même qu'on y met.
Parce que tout à l'heure, quand Katia a dit que le code, c'est le code, mais c'est pas moi...
Ouais.
Toi, quelque part, tu...
C'est, oui, j'aime bien dire que, comme de la même façon que j'essaie de parler à peu près correctement français, j'essaye de programmer à peu près correctement.
D'accord.
Et que ça se voit. Voilà.
OK. Dans le monde du logiciel libre, il y a un terme qui revient souvent, c'est le terme communauté de développeurs et de développeuses logiciels libres. Donc, est-ce que ce terme-là, vous vous y reconnaissez? Est-ce que vous pensez qu'il existe vraiment une communauté de développeurs, développeuses ou des communautés? Et deuxième question, comment ça fonctionne au quotidien? Tout à l'heure, Katia, tu disais, mes collègues, ils sont partout. En gros, ils sont sur Internet au lieu d'être dans un bureau. Toi, Emmanuel, tu as travaillé sans doute sur des projets où il y a des communautés pareilles, décentralisées. Voilà, ce terme communauté, vous y retrouvez dedans ou pas?
Alors, énormément.
Ouais, c'est Emmanuel.
Un logiciel qui n'a pas de communauté est un logiciel qui est mort à terme. C'est comme ça que nous, on arrive à reconnaître les logiciels les logiciels qu'on peut utiliser ou non. Un des grands problèmes quand on développe, c'est de savoir quelles sont les briques faites par d'autres qu'on va réutiliser. Et ce qui est important, c'est de voir est-ce que la brique qu'on utilise va être maintenue, va évoluer, des choses comme ça. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train d'utiliser quelque chose qui va mourir très vite? Et un des critères, c'est de voir est-ce que ce logiciel, il a suffisamment de développeurs. Est-ce qu'il y a des gens qui le soutiennent? Est-ce qu'il y a des équipes qui un peu le font vivre et tout? Et c'est ça une communauté, c'est tout un tas d'utilisateurs qui utilisent le logiciel, qui font des retours sur le logiciel, communiquent autour de ce logiciel et qui éventuellement contribuent à ce logiciel. Voilà, c'est...
Katia?
Oui, c'est exactement ça, en fait. Aujourd'hui, il y a souvent les mêmes produits, les mêmes projets qui font la même chose et ça va contribuer beaucoup, savoir qui l'utilise, quand, comment, et c'est par rapport à la communauté des développeurs qui sont autour qui va faire que tu choisisses un produit ou un autre. Parce que justement, tu sais qu'il va être maintenu, qu'il va évoluer, qu'il va pas devenir obsolète tout de suite. Parce qu'en fait, si quelque chose devient obsolète, qui le maintient, qui fait vivre ça après, potentiellement, tu vas devoir le changer et changer les choses, c'est pas facile. Tu peux pas juste te débarrasser de quelque chose dans lequel tu t'es lié beaucoup. Mais après, en plus, aujourd'hui, au-delà de ça, il y a énormément de conférences, de meet-up, des soirées, des rencontres à Paris et ailleurs, de partout dans le monde, justement pour se rassembler, pour parler, pour discuter et apprendre sur une technologie. Et ça fait partie aussi de la communauté.
C'est pas qu'une communauté virtuelle sur Internet, virtuelle entre guillemets, sur Internet, mais c'est aussi des rencontres physiques.
Voilà, des rencontres physiques. Moi, notamment, je suis une des organisatrices d'un meet-up orientée femmes, mais en fait toutes les soirées qu'on organise sont ouvertes aux hommes et aux femmes, mais c'est vraiment pour mettre en avant le métier de développeuse et attirer la population féminine, parce que c'est incroyable en fait ce qu'on fait et ce qu'on peut faire, et que c'est pas un métier masculin du tout. D'ailleurs, je crois pas au métier masculin ou féminin du tout, donc déjà, mais c'est vraiment quelque chose qui est génial. Et donc pour mettre en avant les femmes développeuses comme moi et d'autres techniques, et attirer plus de femmes à faire ce métier. Et ça, c'est quelque chose qu'on organise, et on fait des soirées techniques pour apprendre. Donc, c'est vraiment pas porté sur une technologie en particulier. Donc, les côtés communauté, c'est beaucoup plus large que juste sur une technologie en particulier.
Alors, c'est Duchesse France, c'est ça?
Oui.
Donc, sans eux, Duchesse. Alors, je précise qu'on consacrera une émission justement à ces sujets-là, parce que c'est un sujet essentiel. Mais ça me fait venir une question, donc là, qui est vraiment pour Katia. Toi, justement, en tant que femme, est-ce que tu es vue différemment des développeurs masculins, donc à la fois chez Red Hat ou sur les projets communautaires que tu participes? Ou est-ce que c'est finalement, tu n'as pas vu de différence?
Dans ma carrière?
Dans ta carrière, oui.
Si, j'ai vu une différence quand même. si, j'ai vu une différence parce que, en plus, ça fait 10 ans que je suis en France, et du coup, je me suis beaucoup améliorée en français, mais quand même, au début, je ne parlais pas aussi bien qu'aujourd'hui. Et en fait, les gens étaient surpris que, en fait, l'a priori est t'es nul. L'a priori, c'est elle est nulle. Et du coup, quand ils se mettent à travailler avec moi et que je suis pas aussi nulle que ça, que j'arrive à coder et à faire sortir le travail.
Attends, ce que tu veux dire, c'est que depuis l'a priori, c'est que t'es nulle.
L'a priori qu'on a les femmes est qu'on est nulle.
D'accord.
Et du coup, il faut démontrer que t'es pas nulle. Alors que l'a priori sur les mecs, c'est qu'ils
sont
forts. Et du coup, après, tu vas dire, en fait, finalement, il est nul.
Ils sont pas coiffés.
Et ça, c'est quelque chose que pourrait être corroboré par beaucoup de femmes dans le métier. Je dis pas tout le temps, ni tout le monde, mais c'est un petit regard auquel on est parfois confronté. Et heureusement, ça change parce que les stéréotypes changent. Mais c'est petit à petit, mais de plus en plus. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai, oui. Après, aujourd'hui, dans mon équipe, je suis pas vue différemment. Je suis jugée comme les autres. Mon code est pas jugé plus fort ou plus durement que les autres. Mon équipe est super. Mais je dois dire aussi que mon équipe, c'est des personnes seniors. Donc vraiment des gens qui ont beaucoup d'expérience et qui sont super respectueux, super forts et qui sont super habitués à travailler avec tout le type de gens, et donc ça fait plaisir, quoi.
D'accord. Tu sous-entends qu'il pourrait y avoir plus de problèmes peut-être qu'avec des développeurs juniors?
Pas forcément, mais le fait qu'ils soient des gens seniors qui ont bossé avec beaucoup de gens sur beaucoup d'années.
De profils très différents.
Il y en a quand même qui sont... ouais, en tout cas, mon équipe est top.
D'accord.
C'est pas, j'ai rien à m'éplendre. Okay.
Bon, en tout cas, on abordera plus en détail ce sujet-là, sans doute avec Katia et puis d'autres personnes, je ne sais pas quand, peut-être en juin ou à la rentrée, parce que c'est un sujet évidemment essentiel. Ça me fait penser d'ailleurs qu'il y a une école qui va s'ouvrir, je crois que c'est début octobre, qui s'appelle Ada School, nom d'Ada Lovelace, la première programmeuse. Donc là, vous cherchez sur Internet les références et on aura l'occasion de reparler de ce sujet-là. Bah, le temps, avant, je surveille un petit peu, parce que c'est un métier passionnant. Et évidemment, on a des invités vraiment passionnants. Je disais en introduction, je crois que pour beaucoup de personnes, le métier du développement, c'est une étape. Moi, je me souviens quand j'ai travaillé il y a très très longtemps dans une autre SS2I traditionnelle, les jeunes qui arrivaient souvent, ils voulaient être développeurs ils étaient plutôt contraints d'être développeurs pendant quelques mois, un an maximum. Mais après, leur priorité, c'est de devenir chef de projet. Et finalement, le chef de projet n'est pas forcément la chef de projet de qualité, parce que finalement, quand on a fait peu de développement, est-ce qu'on est capable vraiment d'encadrer des équipes? Vous, c'est vraiment visiblement un métier que vous poursuivez. Vous voyez poursuivre jusqu'à la retraite, voire même après, ce métier de développement logiciel libre?
Oui, sans hésiter.
Sans hésiter?
Moi, je pense que si je peux, oui. Au cas où, moi, ça ne m'attire pas plus que ça, le côté chef de projet ou management, tout ça. Peut-être qu'un jour, je vais changer, mais je m'approche de la quarantaine et je ne crois pas, non. Pour l'instant, je n'ai pas envie. Je ne trouve pas de satisfaction à ça. Donc,
Enfin, le fait d'être développeur n'empêche pas d'être chef de projet par moment. Hein.
Oui,
il vaut mieux être... Non, mais je ne te contredis pas, mais mieux éviter d'être chef de projet quand on est soi-même développeur sur le projet, mais ça, c'est un autre problème. Mais voilà, mais ça n'empêche pas de faire les deux aussi.
Tout à fait. Donc, ouais, je vous parlais tout à l'heure en introduction de la pub que j'ai vue dans le métro sur « Je veux faire du Java pendant 35 heures ». Donc, le 35 heures, évidemment, c'est sur le temps de travail officiel aujourd'hui. Mais tout à l'heure, en intro, juste avant l'émission, on parlait justement de cette notion de durée, et même en préparant, est-ce que pour vous, ça a un sens de travailler 35 heures sur du développement, ou 50 heures, ou 20 heures. Est-ce qu'il faut travailler justement comme un fou, comme une folle pendant 50 heures pour être un bon en développement, ou au contraire, est-ce qu'il faut savoir faire des pauses? Comment vous vivez ça au quotidien, vous, dans votre métier? Katia, tu veux commencer?
Moi, je le vis vraiment par vagues, parce qu'il y a des moments dans lesquels je suis vraiment très, très, très productif et que du coup, je peux bosser énormément d'heures. Mais d'autres moments, j'ai un coup de barre où je suis un peu moins motivée. Et donc, voilà, c'est pas... Je pense que... Ouais, c'est moi qui fonctionne comme ça. Et après, il faut dire que du coup, les horaires 9h, 18h, moi, c'est pas du tout, ça me convient pas parce que justement, parfois, je peux être super productive la nuit et d'autres moments, je peux être super productive de 7h du mat à midi. Donc, j'échange vraiment. Et en fait, j'ai deux enfants en plus. Du coup, j'ai le fait que je puisse travailler comme ça depuis chez moi dans une équipe distribuée un peu partout dans le monde, bah, ça fait que je peux aménager mes horaires aussi. En fonction de tout.
Et sans ressentir un isolement?
Ah non, je ne ressens aucun isolement.
C'est ça qui paraît fort dans ce que tu dis. C'est que ce qui peut inquiéter des personnes de se dire, quand je travaille à la maison et puis que mes collègues sont sur Internet ailleurs, je pourrais ressentir un isolement. Et à t'entendre, tu ne ressens pas cet isolement.
Ah non, pas du tout. D'ailleurs, j'adore parce que si tu as besoin d'être concentré, tu peux te déconnecter un peu. D'autres moments, tu es tout le temps en train de répondre des questions, n'importe... de ton quotidien. Et puis après, si moi j'ai envie de voir des gens, je vais faire du sport ou je vais manger avec des amis à midi. Donc si je veux voir des gens physiquement, mais je veux dire, c'est pas du tout, je ressens aucun isolement du fait de pas voir des gens dans open space. Ça, et en plus, je fais plus la bise du coup. Du coup, je suis contente aussi. À 30 mètres dans l'open space.
Oui, c'est vrai que ça peut prendre du temps sinon.
Mais ça, on pourrait faire une émission complète sur ce sujet.
Oui,
je pense.
Oui. Emmanuel, toi, tu vois ça comment?
Donc, exactement pareil. Justement, sauf que pareil. J'ai pas ce problème de bise. Mais...
et donc, toi, pareil. Est-ce que vous arrivez mentalement des fois à couper? Parce que l'impression que j'ai, pour avoir aussi fait un peu de développement, c'est qu'à un moment, quand on est sur un truc, c'est difficile, on a envie de poursuivre, machin. Est-ce qu'on arrive à un moment à se dire couper un peu pour passer à autre chose et sans avoir en tête le problème qu'on est en train de résoudre?
C'est une des caractéristiques de ce métier, c'est que quand tu développes, tu construis un échafaudage mental avec tout un tas de briques les unes sur les autres, et dès que tu te déconcentres, t'oublies tout, ce château de cartes s'écroule, et donc quand tu te remets à programmer, il faut reconstruire ce château de cartes mental pour redevenir un peu efficace. Donc oui, quand t'es concentré, t'as envie de... t'as envie de faire ça pendant des longues phases. Maintenant, c'est pas contradictoire avec les 35 heures, mais simplement, c'était des longues phases. Après, il faut couper, faire autre chose. Et enfin, moi, ce qui me plaît dans le métier de développeur, c'est d'avoir de temps en temps pouvoir passer des semaines à coder sans, très, très tranquillement tout seul. Et après, avoir d'autres phases beaucoup plus sociales. Voilà. Mais c'est ce mélange des deux, c'est cette alternance des deux, mais pas un mélange. Parce que quand tu fais du social, tu développes pas. C'est clair.
Alors, justement, avant de poser ma dernière question, sur les jeunes qui voudraient se lancer, le mot social me fait penser. Est-ce que quand vous développez, vous coupez les notifications des réseaux dits sociaux?
Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux.
Pour toi, je sais que tu n'es pas sur les réseaux sociaux.
Katia, il faut en fait, à un moment donné, il faut vraiment, si tu veux rentrer dans la zone,
dans la bulle, dans la zone, voilà.
La zone, il faut s'isoler un mois par une période de 2 heures pour dire et pour être tranquille, parce que sinon, c'est pas possible en fait. Ouais. Et puis après, en revenant au truc, si t'as un souci, comment le régler? Bah, ça arrive qu'à un moment donné tu fais une ça marche pas, tu fais une pause, tu vas faire du sport, tu vas dormir, tu vas faire autre chose, et quand t'es en train de faire cette autre chose là d'un coup t'as la solution dans ta tête qui vient tout seul, et ça c'est un truc magique parce que c'est le cerveau qui travaille dans une phase dans son coin à reconstruire toutes les pistes, et ça c'est génial.
Donc Emmanuel Rivière, tu sais qu'il va falloir faire du sport, te mettre au sport. Dernière question. Imaginons que des gens, alors pas forcément jeunes d'ailleurs, qui nous écoutent aujourd'hui, voudraient se lancer, voudraient découvrir, ne serait-ce que pour le fun, hein, parce que tout à l'heure, un mot important prononcé par Katia, c'est le fun, voudraient se mettre à cette activité, au moins déjà d'activité de développement logiciel, avant éventuellement d'en faire un métier. C'est quoi le conseil que vous donneriez, à part de publier ce code et se lancer dans le grand bain, concrètement? Katia.
Vraiment, pour commencer, de participer à une soirée, un meet-up, une rencontre à Paris, sur des groupes qui existent pour apprendre un peu plus, et peut-être participer à des petits ateliers de 3 heures juste pour découvertes et faire quelques tutoriaux et apprendre à rentrer comme ça, en fait, sur un truc, un peu tranquille, quoi, et dans ton, chez toi ou avec des gens. Ça, d'accord, c'est le conseil. Ouais.
Et pour prendre le problème différemment, c'est essayer de trouver un sujet qui vous intéresse vraiment et après dire, bon, bah, sur ce sujet, qu'est-ce qui vous manque comme outil et essayer de commencer par un petit quelque chose que vous pourriez rajouter sur cette problématique.
Donc, effectivement,
d'un problème, parce que quand vous codez, il faut savoir que vous allez en prendre pour des heures et des heures et des heures et des heures, donc il vaut mieux trouver un sujet qui vous intéresse plutôt que n'importe quel sujet.
Et après, l'une des forces des communautés, c'est que sur des forums, on trouve de l'aide.
Partout, sur tous les sujets.
Et quel que soit l'âge qu'on a, je vais faire une petite référence personnelle. Mon fils, qui a 13 ans aujourd'hui, à un moment, il s'est mis à faire du Python. Et il a fait des codes pour sa maman, qui est professeur des écoles. Il était bloqué. Il a été sur des forums et il a eu de l'aide. Par contre, je lui ai dit, fais attention, parce que les gens ne savent pas forcément que tu as 13 ans. Donc, ils vont te répondre comme si tu étais un développeur expérimenté, voilà, etc. Donc, il faut bien préciser que tu débutes, etc. Mais en tout cas, voilà, ils trouvaient des réponses sur des forums. Ce qui est merveilleux et ce qui, effectivement, comme on revenait sur une discussion tout à l'heure, à notre époque, enfin, notre époque, quand on a commencé l'informatique, Emmanuel Ravière ou même Katia, ce n'était pas le même cas. Il y avait beaucoup moins de forums qui étaient disponibles ou de lieux où on pouvait trouver de l'aide. Écoutez, je vous remercie. Je pense qu'on refera une émission, pas forcément avec vous deux, peut-être avec d'autres, hein, mais sur cette activité, sur ce métier de développement logiciel qui est passionnant. On fera aussi, mais ça c'était déjà prévu, une émission, notamment sur les structures qui accompagnent les femmes, qui aident les femmes pour faire des conférences, pour aller vers le métier de l'informatique et autres, parce que c'est un sujet qui est vraiment important. Donc, avec notamment Duchesse France, il y a aussi Open Heroines et puis d'autres structures. Ça c'est de toute façon prévu de faire ça. Donc, nos invités, c'était donc Emmanuel Ravière, développeur logiciel libre, Katia Aresti, ingénieur logiciel chez Red Hat,